page arrachée au journal de Michel Léris, lue par Jean-Louis Trintignant. 1941.
23 octobre. Lundi dernier, 20 octobre, Bérénice à la Comédie-Française. Alors que le baladin était oublié dès le lendemain, de Bérénice je suis resté imprégné jusqu'à hier. En dehors de ma passion pour Racine, grande dignité de ce spectacle, joué par des acteurs sans génie, Germaine Rouer, Jean Yonel, Maurice Escande, mais d'une parfaite tenue, devant des décors neutres et par conséquent pas gênants, et dans une mise en scène d'une entière sobriété. Je me demande si je ne préfère pas encore ce spectacle à Phèdre, vu au cours de mon unique permission pendant la guerre chez Batty avec Marguerite Jamois, dont chaque parole exerçait une extraordinaire emprise physique, sorte de caresse des entrailles, mais qu'il était pénible de voir flanqué d'un Hippolyte nettement déficient. Grosse question. Des spectacles qui m'émeuvent profondément. Hamlet à Londres avec John Gielgud, Numance, Phèdre, Bérénice, arrive-t-il à m'alimenter comme m'alimenteraient les sacrements, si j'étais croyant et pratiquant? Depuis la débâcle, goût accru des spectacles, comme s'ils étaient l'une des dernières ressources, avec les livres et les concerts. 2 novembre. Samedi soir, m'étant couché après avoir mal bu, je fis vers le matin le rêve suivant. Je me trouve avec le petit Jean-Marie Queneau sur le bord d'un bassin genre bassin des Tuileries. Je tiens dans ma main droite, par le mât, un bateau à voile d'enfant qui lui appartient et que je m'apprête à lancer sur l'eau. Le petit Jean-Marie me dit que sûrement le bateau coulera, car il ne pourra pas trouver son aplomb sur l'eau. Je me réveille en proie à des nausées et constate que cette image du bateau incapable de voguer normalement, image qui traduit l'idée du mal de mer, est l'expression même de ma nausée. 3 novembre. Acheté aujourd'hui, ce dont j'avais envie depuis quelques jours, une Bible catholique, contenant le livre de Judith, celui des Maccabées, etc. Il s'agit pour moi maintenant d'user de cette Bible, soit en la lisant d'un trait comme on fait d'un roman, ce que je ne ferai probablement pas, soit en la consultant de temps à autre, comme on fait d'un dictionnaire, soit en lisant tel ou tel fragment détaché, selon que m'y invite telle ou telle circonstance. Je serais assez enclin, par exemple, à commencer par l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. 4 novembre. Appris en fin d'après-midi que la vente de l'Afrique fantôme vient d'être interdite par ordre du ministre de l'Intérieur. Abstraction faite de ce que cela pourrait venir à entraîner d'inconvénients pratiques, je ne puis que me réjouir de cette décision qui, objectivement, me situe. Objectivement, c'est-à-dire sans que j'y sois pour rien, par le fond des choses mêmes. Cela tombe à point à un moment où, après avoir trouvé cela désolant, j'ai jugé tout compte fait réconfortant que samedi, il y a 15 jours, à un concert semi-privé où l'on donnait Socrate de Satie, il n'y eut presque personne, et pas un seul de nos actuels musiciens. Lui relatant ce concert, j'avais écrit à Henri Canveller dans ce sens, lui parlant du caractère clandestin de certaines œuvres, dont le destin est de ne pouvoir se produire que dans des sortes de catacombes. Trouver, je crois, la bonne façon de faire usage de ma Bible, l'avoir effectivement à mon chevet, la lire en suivant l'ordre, mais petit à petit, à mes moments perdus. 7 novembre. Grand malaise, mécontentement, irritation, sentiment d'être frustré, que j'éprouve chaque fois que des circonstances nouvelles me forcent à annuler une sortie, un rendez-vous, etc., projeté et dont je m'étais réjoui. Je considère toujours la vie comme si elle devait se conformer au plan que j'ai tracé de mes plaisirs, relations sociales, occupations diverses, etc. J'oublie constamment qu'il y aura bien un jour où je devrais défaire un rendez-vous, laisser perdre des places louées au théâtre, renoncer à une lecture parce que l'un de mes très proches, mère, femme, sera gravement malade ou sur le point de mourir. me semble à peu près impensable l'idée que viendra nécessairement ce jour où mon programme sera ainsi modifié. 15 novembre. Hier vendredi, lu au Trocadéro un numéro de Au Pilori, dans lequel le musée de l'homme est pris à partie et qualifié de judéo-maçonnique. Nous sommes presque tous attaqués nommément. En ce qui me concerne, je partage avec Griol les honneurs d'un paragraphe dans lequel il est dit que l'un et l'autre, nous nous sommes vautrés jusqu'à l'essieu dans la boue du Front populaire. L'article est signé d'un vague type, ancien élève de l'Institut ethnologique. Su, il y a quelques jours, que l'Afrique fantôme avait été non seulement interdite, mais envoyée au pilon. En conséquence, j'ai racheté l'exemplaire qui se trouvait à la librairie du Trocadéro pour l'offrir à Moret, qui m'a dit il y a quelque temps qu'il n'avait plus le sien. 23 novembre. Achat d'une quantité de livres. Ronsard, Shakespeare, La Rochefoucauld, de la bibliothèque de la Pléiade. Quelques livres de Freud, rescapés. Et trouvé par hasard quelques Stendhal du divan pour Z. Quelques titres de l'ancienne collection des chefs-d'œuvre méconnus de chez Bossard, vendus à un prix dérisoire pour ce que c'est, comparé aux bouquins qui sortent par le temps qui court, etc. À la suite de ces achats, faits à la fois par goût, par facilité présente au point de vue argent et en raison de la situation qui empêche les éditeurs de réimprimer, ma Bible est passée tout à fait à l'arrière-plan. Curieux sentiment que j'éprouve aujourd'hui d'acheter des livres comme d'une denrée dont on va manquer. L'Afrique fantôme, paraît-il, n'a pas été détruite. Les éditions Gallimard essaient de la sauver du pilon, d'obtenir que la sanction reste limitée à l'interdiction. Idée funèbre, déjà notée peut-être, qui me vient chaque fois ou à peu près que j'achète des livres. De tous ceux que je possède, combien y en aura-t-il que je n'aurai pas lu quand je mourrai ?
1942.
28 janvier. Enterrement de mon oncle Gabriel Léris, frère de mon père et surnommé par sa sœur, j'ignore pourquoi, Galurin. Rencontrer mon frère Jacques et sa femme, fin de ne pas les reconnaître. Pour ce qui le concerne, lui, je n'étais pas encore allé jusque-là. Idée qu'il n'était pas vain de lui montrer que je ne saurais faire front unique avec lui, même devant la mort. Détail qui m'a frappé, à mesure qu'il prend de l'âge, il ressemble davantage à celui qu'on enterrait. Les momeries auxquelles il se livre maintenant à l'église suffiraient à me dégoûter, même au cas où j'aurais des velléités contraires, de toute espèce de dévotion. Se comporter vis-à-vis de la mort autrement que les autres. Façon de ne pas mourir, puisqu'on esquive par là une bonne part de ce que ce vocable recouvre de hideux. Bien qu'il ne soit pas un immortel, il est certain que Socrate ne meurt pas. 8 février. Caractère véritablement incestueux du mariage qui tend à transformer les relations amoureuses en relation familiale. Février. Andromaque au Théâtre Français. Jean Yonel dans Oreste. Ce n'est peut-être pas un grand acteur, car sans doute il n'y a plus de grands acteurs, mais du moins un acteur qui a de la grandeur. Grâce au Dieu, mon malheur passe mon espérance. Comment, grâce à la règle des trois unités qui nécessite que l'action se déroule en 24 heures, la tragédie française se trouve réglée sur le rythme solaire, avoir une signification solaire. Cela se développe comme le jour croît et finit dans la nuit. J'imagine une mise en scène avec coucher de soleil terriblement sanglant pour le quatrième acte. Sortir du théâtre en plein dans cet état second où tout spectacle devrait nous transporter, pour retomber dans le métro, des discussions de monnaie avec la vendeuse de tickets, la bousculade, l'obligation de revenir d'un coup à soi, de laisser en une seconde tous ceux en quoi l'on baignait se dissiper. 21 février. Goût immense que j'ai pour les draperies. la cape du torero, les chamas des possédés abyssins en transe, la touche des tragédiens. C'est toujours dans ces replis d'étoffe que je trouve ma figure du tragique. Cela vient-il réellement de ces images de l'histoire sainte où tous les personnages étaient vêtus de longues robes à grands plis? Je serais tenté de le croire. Et je pense en tout cas que cette valeur émotive qu'a pour moi le drapé, à la fois mouvant et sculptural, doit tenir à quelque chose de tout à fait profond et lointain. À part cela, je continue de noter dans ce journal que des réflexions touchant à l'esthétique, au tragique esthétique, alors que tant d'amis et de connaissances à moi sont aux prises avec le tragique le plus sale et le plus quotidien. 24 février. Vu hier soir à l'opéra le Don Juan de Mozart que je désirais voir depuis longtemps à cause du mythe de Don Juan. Idée liée au malheur qui frappe présentement certains de mes amis aux relations, de m'imposer une discipline quant au spectacle. Ne plus en voir qui soit pour moi pure distraction. Hier après-midi s'est terminé au plus mal l'histoire commencée au Trocadéro il y a maintenant plus d'un an. 25 février. D'après ce consul et famille, c'est avant-hier qu'a eu lieu l'exécution vers 15h ou 18h, dans ce dernier cas juste au moment où commençait Don Juan. Les condamnés ont été amenés en car automobile de la prison de Fresnes au Mont-Valérien. On leur a fait traverser Paris et le trajet a duré environ une heure. Il y avait là un aumônier. Pendant la route, ils ont chanté, parlé entre eux gaiement des coins de Paris qu'ils reconnaissaient. Ils ont aussi refusé de se laisser bander les yeux. Je devrais être épouvanté de consigner cela sur ce cahier comme quelque chose d'aussi abstrait. Par ailleurs, nous avons su que Deborah Lifshitz, arrêtée par la police française samedi 21 au matin, allait être envoyée pour 6 mois à la caserne des Tourelles. 28 avril. Emménagé hier 53 bis, quai des Grands Augustins, contentement certain. Quitter la province des quartiers ouest et, par ailleurs, retrouver la Seine. 1er mai. Diarrhée depuis 2 jours. Suite probable d'un coup de froid pris mardi 28 en sortant de chez les Piels qui nous avaient invités à dîner. Remue-ménage intestinal, à ne pas savoir si c'est en moi ou hors de moi que se passe le déménagement. Coup de téléphone de bataille à qui l'on fait un pneumothorax au début de la semaine prochaine. 15 mai. Depuis un certain temps, je suis le jouet de véritables prurites qui me poussent, généralement lorsque je circule seul, à me précipiter avec avidité dans les pâtisseries pour manger des gâteaux. Un peu comme autrefois il m'arrivait d'être attiré par les bordels. Fringale due aux restrictions, ou plutôt fringale psychologique, témoignant d'une certaine diminution, d'un retour à des conduites enfantines. Mauvaise conscience qui en résulte. Perdre mon temps, dépenser sottement, m'alourdir, ne pas savoir me réfréner, n'être plus qu'un tube digestif. Plus que jamais je me sens acariâtre et à volo. Toutes mes petites manies, relatives non seulement comme celle-ci à la nourriture, mais aux vêtements, aux livres, à l'installation mobilière, arrivent à m'obnubiler presque entièrement au point de vue intellectuel. Il y a quelque temps, mon plus grand plaisir était d'aller au théâtre. Depuis, j'ai encore descendu d'un cran. 27 mai. Ce matin, chez Picasso avec Limbourg. Nombreuses assemblées chez lui. Cela fait chambre du grand matador qu'une cour de familier entoure tandis qu'il est en train de se raser. Il y a là Sabartès, qui serait le manager, l'ex-aviateur Gant, l'ami de Braque, qui, il y a quelques années, a gagné le bol d'or automobile après s'être entraîné autour du parc Montsouris, et propriétaire des établissements Daugron, fournit maintenant Picasso en couleur. Marcel, le fidèle chauffeur, plus 3 ou 4 Espagnols et un jeune peintre d'allure assez peuple qui aide à transporter les toiles exhibées. Que je n'oublie pas non plus Kazbek, le lévrier afghan. Je n'avais jamais perçu, comme aujourd'hui, le côté espagnol et particulièrement taurin de tout cela. 28 mai. Rêver encore de l'exécution de Levitsky. Ses parents et amis sont admis juste avant à lui dire au revoir. J'y vais avec la peur affreuse d'être en retard. Peur qui, bien que sincère, ne triomphe que pour quelques mètres de l'horreur que j'ai de courir. Je le retrouve, très pâle, coiffé d'un chapeau mou, dans une vaste pièce où il est entouré par la plupart des gens du Trocadéro. Je l'embrasse en pleurant. Il est très calme et j'éprouve l'impression d'être devant une victime artificielle. Une femme du Trocadéro lui offre le contenu d'un énorme récipient où fume de la soupe. Levitsky flaire la vapeur de la soupe et accepte d'en prendre. 22 juin. Velléité de me remettre un peu aux sciences occultes. J'y suis d'ailleurs poussé par Moret, qui désirerait un kabbaliste pour prendre part à ces réunions d'interprétation des Écritures. Lu amulette, talisman et pentacle de Marquès Rivière, qui m'a dégoûté. Trop hâtif, plein de contradictions, de légèreté, malgré une érudition certaine. Cette lecture m'a considérablement refroidi. Je ne suis plus attiré comme autrefois par le pittoresque de l'occultisme. Ou plutôt, je suis encore attiré, mais ce pittoresque à lui seul ne saurait me fixer. Je ne puis plus supporter maintenant ce qu'il y a dans l'occultisme de sciences fausses, de spéculations gratuites. Envie, mais le ferais-je, de me mettre un peu à la philosophie. Aujourd'hui, après le dimanche d'hier, tout de nervosité et de marasme, je me sens travaillé par une louable envie de partir à la recherche de la vérité. Depuis un certain temps, j'achète plus de livres que je n'en lis, en accumulant ainsi non pas même les lectures, mais les livres. Je m'imagine accroître ma connaissance. Ces livres que j'entasse sont à la lecture ce que le moulin à prière est à la prière. Dimanche 28 juin. Avant-hier après-midi, Alexandre Astruc, le jeune secrétaire de la rédaction de Messages, vient me voir au musée. C'est un garçon que j'aime bien à cause de son enthousiasme et de son air de candeur. Il témoigne, devant ce qu'il imagine que dut être l'époque surréaliste, du même émerveillement dont je témoignais moi à son âge devant ce que j'imaginais de l'époque cubiste. Comment je pourrais, en examinant ma bibliothèque, retrouver les traces de toutes sortes d'influences qu'a subi ma vie ou de toutes sortes d'engouements que j'ai tendance à oublier? 29 juin. Liturgie, léthargie. 13 juillet. La fameuse phrase de Sade qui dit à peu près ceci: « Quand l'athéisme voudra des martyrs, mon sang est tout prêt », a cela d'admirable qu'elle situe l'athéisme comme une foi et comme une religion. Rien de commun avec l'anticléricalisme du genre école laïque. Dîner hier avec Éluard, Picasso, etc. À la stupeur de Picasso, Dora Maar, Zette et moi, Éluard achète un Nouveau Testament à un vendeur de l'Armée du Salut. Il allègue pour expliquer son geste que les gens de l'Armée du Salut, qui du reste ne peuvent plus porter l'uniforme, sont très persécutés actuellement. Si j'ai pensé à la phrase de Sade que je viens de citer, c'est justement parce qu'Éluard l'a reproduit dans son anthologie « Poésie involontaire et poésie intentionnelle » et que je l'ai mentalement confronté avec l'histoire d'hier au soir. En d'autres temps, quand Breton était encore là, on n'aurait tout de même jamais vu ça. 26 juillet, veille de départ. Besoin d'inscrire quelque chose sur ce cahier avant de le ranger dans mon bureau et de boucler ce dernier. Quelle sera la pensée? Faire un livre, c'est nier les livres. Se détacher de toute connaissance livresque afin de la remplacer par de l'expérience vécue, de l'expérience qui se fait et non qui se reçoit de l'extérieur, de l'agi et non du subi, du poétique au sens fabricateur. 9 septembre. Rêve du matin. Sur une tombe, la mienne, on dépose en guise d'épitaphe une pancarte contenant un résumé en quelques lignes de la vie du défunt. Cette pancarte est intitulée « Argument ». 27 septembre, Paris. La mort de Pétrone, comme supérieure à celle de Socrate, parce qu'il y a en elle futilité et amusement, détachement encore plus grand que la simple sérénité courageuse, détachement qui est à l'opposé de l'ascétisme, puisqu'il s'agit au contraire de jouir jusqu'aux dernières secondes de tout ce que peut offrir la vie. Rêve d'une de ces dernières nuits. Excursion en montagne avec Zette, Canveller, Janine et Simone Piel. Il s'agit de visiter une église bâtie dans la montagne. J'aperçois cette église, me trouvant à quelque distance. D'énormes figures humaines, coloriées et ressemblant à des figures de cire du musée Grévin, aux anges du maître-autel de Saint-Jacques de Compostelle ou à des mannequins d'orgues à vapeur de chevaux de bois, sont sculptées sur la façade. Si grandes qu'elles me donnent le vertige et que je suis pris d'angoisse, imaginant ce que sera ce vertige quand je les verrai de plus près, alors d'une grandeur vraiment démesurée. Vertige qui se joindra à celui de la montagne, car l'église est bâtie en un lieu assez escarpé. Ce rêve se rapproche curieusement d'un rêve que rapporte Bataille dans l'expérience intérieure et dont j'ai eu la connaissance seulement aujourd'hui. Après une promenade sur l'Etna et une fuite devant une coulée de lave, son entrée dans une grotte, où il découvre, avec grande angoisse, d'énormes statues humaines au rire figé, dont l'une lui ressemble. Ces statues sont empreintes du même caractère de sérénité divine que l'étaient les miennes. 28 septembre. Arracher une bonne fois cette idée que, pour écrire, il me faut la tranquillité, comme s'il fallait que s'arrête le cours des choses pour que j'aie le loisir de faire le point. 11 octobre. Contrairement à ce que j'ai toujours pensé, je m'aperçois qu'attendre d'être inspiré pour écrire, cela veut dire qu'on est un pur esthète. Dans ce cas, en effet, l'inspiration n'est qu'un moyen et c'est l'écriture qui est la fin. Ce qu'il faut, au contraire, c'est écrire pour être inspiré. Si l'acte d'écrire n'inspire pas, s'il n'émet pas dans cet état particulier qu'on évoque sommairement à l'aide du mot « inspiration », qu'est-ce donc que l'acte d'écrire? Sinon, ce que j'ai toujours dédaigneusement traité de littéraire. Une pure besogne de confection plus ou moins bien réussie, selon qu'on aura été bien inspiré ou non. 21 octobre. Propos de Paul Éluard l'autre soir sur la mort. La mort, chose naturelle, qui pourrait entraîner la joie et non cette peur essentiellement chrétienne. Il rejoint ici Nietzsche, Bataille, tous ceux qu'on pourrait rassembler sous l'étiquette de dionysiaque.
C'était Page arrachée au journal de Michel Léris, choisi et présenté par Jean Jamin. Lu par Jean-Louis Trintignant et enregistré au Festival d'Avignon en 1992 par Monique Burguière et François Connac, dans une réalisation de Claude Guerre. Remise en onde Sébastien Labarre et Claude Guerre, assistant à la réalisation Félix Levaché avec la voix de Julie Pouillon. Le journal de Michel Léris est publié aux éditions Gallimard.